Le Raja de Gaulle par Henri de Verstappenpoole. Le boy javanais enturbanné qui flânait devant la porte du fumoir, d'un air noué et tira un carnet de coupons sur lequel Mineur Amayat inscrivit un cocktail. Le bourdonnement des hélices répondait au ronronnement des ventilateurs, et ballotté par un léger roulis, nous apercevions à travers les dallos ouverts une mer couleur de vin qui tour à tour s'enfonçait et remontait sous un soleil éblouissant de clarté. D'un bout à l'autre des Indes orientales hollandaises, le long des côtes de Chine jusqu'au Pacifique et même jusqu'à San Francisco, Mineur Amayat est l'homme à qui s'adressent en dernier ressort les trafiquants en perles, les négociants de canton et l'ennemi officiel étourdi en cas de vol, chantage, incendie par malveillance, crime et ainsi de suite, pour employer l'expression du commissaire de bord du Harlem, anglais de nationalité, qui me vantait les qualités professionnelles extraordinaires de M. Amayat, chef de l'agence de police privée de Sandabar et de Salong. Je m'étais lié d'amitié avec cet homme dont le visage desséché de Kalmouk, qu'on eût dit sculpté dans du vieil ivoire, aurait certes pu servir de modèle à un fabricant de pipes. Ses yeux, les plus étranges que j'ai jamais vus, bien qu'en réalité je n'en connusse pas exactement l'expression, voilés qu'ils étaient par des lunettes de couleur derrière lesquelles ils semblaient continuellement en mouvement, comme des souris derrière un rideau. En somme, des yeux qu'un assassin, se sachant pisté par Mineur Amayat, eût été, je crois, fort embarrassé de reconnaître. Je le laissai terminer son cocktail et lui demandai, faute de sujet plus passionnant, s'il avait rencontré des cas de magie au cours de sa longue carrière en Orient. L'esprit de Mineur Amayat, amené brusquement à trancher une question directe, avait tendance à se tortiller comme une chenille devant la pointe d'une canne. Il me répondit à peu près en ces termes. En Orient, il existe de nombreux faits qu'on pourrait qualifier de magiques, mais la plupart n'ont rien à voir avec l'homme, sinon par leurs conséquences. Vous avez sans doute entendu parler du durian, cet arbre dont le fruit exerce une telle fascination sur les indigènes que j'ai vu un village combattre jusqu'au dernier homme, à l'instar des Troyens, pour défendre Hélène, afin de protéger leur précieux végétal contre les convoitises d'une tribu voisine. Prenez l'opium, par exemple. N'y a-t-il rien de magique dans ces manifestations? Et les herbes, dont les parfums, sous une forme concentrée, éveillent les mauvaises passions de l'homme. Les hypnotistes à qui l'on attribue la suggestion collective des foules, les fakirs qui marchent pieds nus sur des charbons ardents sans se brûler, les hommes capables de se transformer en animaux et les nattes réputés pour vivre dans les arbres de Burma confirment cette doctrine de façon magistrale. Oh, je vous l'assure, les croyances en vigueur dans l'hémisphère oriental paraissent aussi étranges aux yeux d'un occidental que le scepticisme des matérialistes occidentaux au peuple de l'Orient. Mais à mon avis, le phénomène le plus bizarre est l'incompréhension totale dont ferait preuve par exemple un Anglais devant les antiquités de l'Inde ou un fakir brusquement transplanté dans le tumulte de la Bourse de Paris, supposé qu'on lui autorisa l'entrée de ce monument. Chacun d'eux, sans pénétrer au fond des choses, n'en verrait que le côté superficiel. Croyez-moi, malgré mon long séjour ici et les nombreuses occasions qui me furent offertes de risquer un coup d'œil derrière le rideau, je n'en sais pas bien long sur les phénomènes considérés comme réels par les indigènes, et cette maigre science ébranle beaucoup plus mon imagination que mes convictions personnelles. On ne peut pourtant nier l'évidence de certains faits. Vous n'ignorez pas, je suppose, la croyance populaire en Occident et en Orient, selon laquelle des sorciers peuvent à leur gré se changer en bêtes, en loups-garous dans nos pays et en hommes-tigres ici. Oui, des hommes se convertissent en tigres, errent dans la campagne pendant la nuit et reprennent leur forme humaine au lever du soleil. C'est absurde, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai assisté à de pareils phénomènes. Vous avez vu cela? Dis-je. Parfaitement. J'ai vu quelques verres de mauvais whisky transformer un homme en babouin furieux, déchirant et brisant tout ce qui lui tombait sous la main. Et deux ou trois grains d'opium métamorphoser un malais en chat sauvage. J'ai vu de même un individu, fou de colère, prendre les traits d'une hyène. Pourquoi m'attarderais-je à vous fournir des menus détails sur les dents, les griffes et la fourrure? La bête revit en l'homme. Voilà l'essentiel du problème. Si l'on se contentait d'affubler un homme d'une peau de babouin ou de tigre, il n'en deviendrait pas pour autant l'un quelconque de ces animaux, et rien d'extraordinaire ne se produirait. Aussi, montrons-nous tolérants envers les orientaux superstitieux quand ils nous racontent leurs histoires d'hommes-tigres, et reconnaissons que leur fantaisie repose au moins sur une base philosophique. Ce point admis, il est permis d'imaginer qu'il existe peut-être quelques vestiges de vérité, en ce qui concerne les dents, la fourrure et les griffes des animaux en question. Toutefois, ne nous lançons pas dans les dissertations oiseuses à ce propos. D'abord, il fait trop chaud pour parler de fourrure, et en outre, notre conversation me rappelle certaines histoires qui vaut, je crois, la peine d'être contées. Et elle présente une curieuse analogie avec la double nature de l'homme, si admirablement rendue par Robert Louis Stevenson dans le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un des chefs-d'œuvre de votre littérature. C'est juste, dis-je avec enthousiasme. Toutefois, je n'ai pas souvenance si à la mort du héros, le cadavre appartenait au Dr. Jekyll ou à Mr. Hyde. Fait curieux, je ne m'en souvenais pas davantage. Je savais pertinemment, par contre, que Jekyll était un sinistre individu, mais j'avais lu ce roman depuis si longtemps que j'eusse été bien embarrassé de dire si, en fin de compte, on avait enterré Hyde ou Jekyll. Ma foi, poursuivit Mineur à Mayat, j'estime qu'un écrivain doit toujours tenir compte de l'imperfection de ses lecteurs. Reconnaissons toutefois que le côté captivant du roman de Stevenson réside surtout dans le cours du récit, de sorte que le dénouement importe peu. Dans celle que je vais vous raconter, le dénouement, au contraire, est la clé de voûte du sujet. En l'année 1900 et quelques, je fus appelé à Londres sur la demande du British Foreign Office pour m'occuper d'un vol de documents diplomatiques touchant une possession anglaise en Extrême-Orient. Je rencontrai plusieurs chefs de Scotland Yard et, ma mission terminée, je m'attardai quelque temps pour observer sur place, grâce à l'amabilité de l'administration, les méthodes de la police londonienne, tout comme un chirurgien étranger pourrait, après une opération, prolonger son séjour à Londres pour étudier le fonctionnement des hôpitaux anglais et assister à des opérations intéressantes. À cette époque, Scotland Yard était fort intrigué par une série d'événements mystérieux qui se produisaient dans le comté d'Essex, lequel, vous ne l'ignorez pas, est situé au nord de Londres. Plusieurs assassinats d'une bestialité effrayante avaient eu lieu non loin du village de Yavering, sur la limite du Suffolk, et bien qu'en règle générale, chaque comté ne s'occupe que de ses propres affaires criminelles, on avait fait appel à la police de Londres étant donné la nature extraordinaire des attentats. La première victime fut un journalier qu'on avait trouvé au printemps de l'année précédente assassiné dans un champ. Le deuxième cas était à peu près semblable. Un soir d'automne de la même année, un vieillard qui revenait chez lui fut tué dans le même champ, mais à une bonne distance du théâtre du premier crime. Le champ mesurait 25 hectares environ. Le troisième crime fut commis sur la personne d'un bohémien dans un champ voisin le 25 mars de l'année dont je parle. Tous les cadavres présentaient la même particularité. L'assassin s'était, selon toute apparence, servi d'un instrument tranchant et contondant qui coupait et meurtrissait à la fois. D'autres détails ignobles, dont je vous ferai grâce, indiquaient la férocité inouïe du misérable. L'inspecteur Williams, chargé de l'enquête, me mit au courant de tous les faits. Il me raconta comment la police, après avoir opéré maintes recherches dans les comtés de Suffolk et d'Essex, avait fini par arrêter un vagabond présumé coupable. Un prophète est, selon le proverbe, beaucoup plus écouté ailleurs que chez lui. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que l'inspecteur dut surestimer mes talents pour cette raison même que j'étais étranger et que j'avais réussi dans cette affaire de documents politiques dont je vous parlais tout à l'heure, car il me demanda mon avis au sujet du crime de Yavering. Nous en discutâmes pendant 4 heures d'affilée dans son bureau de Scotland Yard. Il produisit devant mes yeux toutes les pièces à conviction et fait essentiel une carte du pays établie sur une grande échelle. Notre entretien terminé, j'exposai comme il suit ma manière de voir. L'assassin est très probablement un sadique, sujet des accès durant lesquels la bête chez lui reprend le dessus, si j'en crois sa brutalité et l'absence apparente de mobile. Ces accès se reproduisent périodiquement, à peu près tous les 6 mois, et l'heure de la prochaine crise ne tardera peut-être pas à sonner. Je dis peut-être, car il est impossible de faire des prédictions dans les maladies mentales. À propos, dans quelle phase se trouvait la lune lors du dernier crime? Était-ce la pleine lune? L'inspecteur ignorait ce détail. Eh bien, repris-je, un calendrier nous l'apprendra, ou mieux encore, pour gagner du temps, prie donc l'un de vos employés de fournir par téléphone au bureau météorologique la date des 3 crimes en lui demandant si la pleine lune donnait ces nuits-là. William se mit à rire, mais il acquiesça tout de même à mon désir et je poursuivis. Sur cette carte, lui dis-je, Je vois la grande roue de Sudbury qui traverse Yavering. Ces deux champs sont en bordure de la route, du côté de ce village, dans la direction duquel ils s'étendent. Existe-t-il un raccourci partant de la grande route jusqu'au village ?
Oui,
me répondit Williams. Un sentier mène directement au village. Je m'y attendais. Les champs sont donc délimités par ce bois. Le sentier se trouve-t-il à proximité ?
Oui.
Il suit la lisière du bois. Remarquez ces trois points au crayon. Ils indiquent à peu près l'endroit où les crimes ont eu lieu, à très peu de distance du bois. Tout me paraît clair comme le jour. L'assassin, tapis entre les arbres comme une hermine sur une cendre de lapin, n'a fait qu'un bond pour assaillir ses victimes. Il va de soi qu'après le deuxième crime, les gens, pris de craintes superstitieuses, ont évité d'emprunter le sentier à la nuit. Mais la dernière victime, en l'espèce le bohémien, ignorant le danger, est allé se fourrer en plein dans la gueule du loup. Jusqu'ici, tout s'explique. Maintenant, écartons, si vous le voulez bien, le vagabond de nos hypothèses. Vous m'avez énuméré toutes les preuves contre lui en ce qui concerne le dernier crime, en ajoutant qu'aucun soupçon ne vous permettait de l'inculper pour les deux premiers. Quant à moi, je crois peu probable qu'un vagabond, toujours par bon et par beau, et en proie à un accès de folie homicide, revienne hanter le même pays et les mêmes lieux pour perpétrer un nouveau crime. Remarquez que le fait est possible, mais je le répète, peu probable. Je préférerais chercher l'assassin parmi les gens du pays. En ce cas, où le dénicher ? À Yavering. En dehors de ce village, je vois très peu de maisons. Ici, à 1400 mètres de l'autre côté du bois, se trouve Yavering Hall. Un peu plus loin, la ferme de Halt, et à 1500 mètres environ dans la direction de Hellingham, la ferme de Lambert. Tout le reste me semble être des prés et des champs.
« C'est exact, dit Williams. Dans cette contrée peu habitée, les maisons sont assez rares.
Qu'importe, nous n'arrêterons pas notre homme dans une habitation, mais plutôt sur son terrain de chasse. »
« Alors, insista Williams, ne croyez-vous pas que nous le tenons déjà ? Ne croyez-vous pas la culpabilité de notre vagabond ?
Croire à la perdition du détective, lui rétorquai-je. » Il se mit à rire. À ce moment, la porte s'ouvrit et l'employé entra, un papier à la main. C'était le message téléphoné des météorologistes, confirmant que les trois dates données coïncidaient avec l'époque de la pleine lune. Autrement dit, hasardai-je, chaque crime était commis non pas aux environs de la pleine lune, mais la nuit même enregistrée par les astronomes comme étant celle de la pleine lune.
« Eh bien, fit Williams, voilà qui renforce votre théorie relative à la folie homicide. Supposez qu'il existe un rapport entre l'état de la lune et l'esprit humain.
Mais j'ai entendu bien des gens ridiculiser cette idée. »
Moi aussi.
Il n'en reste pas moins vrai qu'au point de vue purement scientifique, ma théorie n'offre rien de ridicule. Pas plus d'ailleurs que celle du sirocco qui, prétend-on, aiguise le système nerveux et pousse au crime certains déséquilibrés. Les rayons ultraviolets de la pleine lune peuvent exercer une influence néfaste sur l'homme, et quoi qu'on en dise, j'ai eu maintes fois l'occasion de constater en Orient qu'il existe une corrélation entre la lune et l'esprit humain. Considérons donc ce fait comme acquis, au même titre que l'innocence de votre vagabond. La pleine lune qui doit se manifester d'ici quelques jours nous permettra peut-être de nous livrer à une double expérience. Nous sommes au milieu de l'année. Il est en conséquence fort possible que la crise de folie semi-annuelle se produise maintenant chez l'assassin. En ce cas, et si votre vagabond est coupable, il manifestera quelques signes de démence. Tenez-le en observation. Si au contraire, il s'agit d'un homme libre et vivant dans le voisinage de Yavering. Ouvrez l'œil. L'instinct le ramènera presque infailliblement au lieu du crime.
« Vous voulez dire le sentier ?» demanda Williams.
« Précisément. N'oublions pas que l'automatisme joue un certain rôle dans ce genre de méfaits. L'assassin fut-il rusé comme un renard ?» Après trois tentatives couronnées de succès, il se peut que la bête récidive une quatrième fois. Nous allons, dans une semaine, entrer dans la pleine lune. « Il me semble qu'il vaudrait la peine de tendre un piège en supposant que les événements répondent à nos prévisions. »«
Un piège ?» s'exclama Williams.
« Oui. Et si vous me le permettez, j'y réfléchirai et vous soumettrai mon projet. » »«
Je déteste les complications. Mon plan était donc fort simple, mais il me fallait tout d'abord me rendre sur le théâtre du crime. » Quelques jours plus tard, nous y allâmes en automobile. Jamais, même en Hollande, je n'ai rencontré de petits villages aussi calmes que Yavering. Nous remisâmes notre voiture à l'auberge, et sous la conduite de Williams, je découvris le sentier. C'était en effet un endroit rêvé pour un assassinat, le bois offrant à la fois une cachette et un moyen de retraite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le sentier longeait les deux champs, séparé par une haie qui se terminait à 20 mètres du bois, en sorte que du bois on avait vu sur toute la longueur du sentier, de la barrière située sur la route de Sudbury jusqu'à celle du chemin traversant le village. Ainsi, c'est entendu, dis-je, comme nous nous appuyons sur la barrière de la grande route et plongeons le regard vers le sentier. Après-demain, jour de la pleine lune, nous placerons un homme comme appât dans notre piège. Il sera armé d'un pistolet automatique et ne possédait suffisamment de cran pour camper au bord du sentier quelques heures avant minuit jusqu'à l'aube. Il s'accoutrera comme un vagabond, allumera au besoin un petit feu sur lequel il fera bouillir de l'eau dans une casserole pour compléter le déguisement. De plus, souffrant d'insomnie, il bâillera, toussera, poussera des grognements avant de s'endormir. Si mes prévisions se réalisent, le guetteur dans le bois aura repéré notre homme avant même qu'il prépare son feu de campement. Mais n'abandonnons rien au hasard. Avez-vous quelqu'un de qualifié pour remplir cette besogne ?
Oui, répondit Williams, j'ai ce qu'il vous faut.
C'est que, continuai-je, je ne tiens pas à le laisser seul. Cette haie se termine à 20 mètres du bois et de chaque côté il y a un fossé profond d'1 mètre. Je propose donc que notre pseudo-vagabond se poste près du sentier à mi-chemin de la haie et de la barrière de Yavring, et qu'un deuxième homme muni d'un fusil monte la garde dans le fossé et se tourne vers Yavring afin de surveiller l'endroit où campe le vagabond. Notre homme devra être excellent tireur, capable d'abattre le meurtrier d'un seul coup si l'automatique le rate ou ne fait que le blesser, ou encore s'il essaye de fuir dans le bois. Souhaitons que le ciel soit clair et serein. Avec votre permission, je m'allongerai moi-même dans le fossé du côté de la haie regardant Sudbury. Je n'élèverai qu'une seule objection, dit Williams. Vous ne m'avez assigné aucun rôle dans votre complot. Vous resterez à l'auberge de Yavring, répondis-je, et irez vous coucher tout habillé, votre fenêtre ouverte. Au moindre coup de feu, vous accourez. C'est tout ce que je puis faire pour vous. Or donc, tout se passa comme je l'avais prévu. L'inspecteur Jaggers se déguisa en vagabond, et un sergent de police, nommé Anderson, fut choisi comme tireur. Il faisait un temps magnifique, et la nuit promettait d'être sans nuages. Un tout sautement au bout de la haie annonça la présence de Anderson. Il attendait là depuis midi. Alors, l'obscurité tomba. J'entendis l'heure sonner à un clocher voisin, des voix de paysans qui suivaient la grande route. De temps à autre, un roulement de voiture et la corne d'une automobile. Puis à mesure que s'écoulait le temps, l'aboiement de chiens à une grande distance. Je n'étais point désarmé. J'avais emporté avec moi le compagnon le plus précis et le plus terrible que je connaisse, un pistolet automatique Luger. J'éprouvais une sorte de volupté lorsque je le tirais de ma poche pour abaisser le cran d'arrêt. À l'instant même où l'horloge de l'église frappait 10 coups, je perçus un bruit m'indiquant que l'heure du rendez-vous approchait. Puis une voix sourde et chantante, c'était Jaggers, qui venait de franchir la barrière et suivait le sentier. Il se parlait à lui-même et marmonnait une phrase entrecoupée de hoquets. Il disparut ensuite à ma vue, caché par la haie et placé à présent sous le rayon visuel d'Anderson. La trappe était posée et n'attendait que le gibier sous la clarté de la lune montante. La brise qui agitait les arbres s'apaisa soudain, et le dernier coup de 11 heures à un clocher lointain fut suivi d'un silence absolu qui ne laissa pas de me surprendre. Pour la première fois, je m'aventurai en pleine nuit dans la campagne anglaise. Il est vrai que le ululement d'une chouette parvint à mes oreilles, affaibli par la distance, ainsi que le cri rauque d'un oiseau de nuit perché dans le bois voisin, mais partout ailleurs régnait la paix et le calme, indice d'une sécurité bien établie. On aurait eu peine à s'imaginer un assassin à l'œuvre dans une telle ambiance, et à plus forte raison la scène qui allait se dérouler sous mes yeux. Il était près de minuit. Aussi vrai que je vous le dis, bien que je conserve une foi invincible en moi-même, je commençais à mettre en doute l'efficacité de ma théorie et à redouter un échec. On rirait de ce mirifique projet, tout juste bon, en somme, à capter des rayons de lune. Et vous savez que les colibets de ce genre se multiplient plus vite qu'on ne pense. Cependant, en l'occurrence, personne ne se moquait de moi. Tout à coup, un spectacle inattendu se produisit. Le clair de lune baignait en plein le sentier, et de dessous les arbres, une demi-douzaine de lièvres détalèrent un peu partout dans une course éperdue. Quelque chose remuait parmi les arbres. La seconde d'après, écartant doucement le feuillage et pareil à une vaporeuse apparition, surgit devant mes yeux incrédules ce qui me sembla être la tête d'un tigre adulte. Aussitôt mon étonnement fit place à une froide évocation de faits enregistrés dans ma mémoire. En effet, Williams m'avait appris, lors de notre conversation, qu'un Indien, le Raja de Gaul, était le locataire du manoir de Yavring. Évidemment, ce personnage possédait une ménagerie et le fauve s'était échappé. Les blessures des victimes et le triturement indescriptible de leur chair étaient l'œuvre de crocs et de griffes, et nous tenions le coupable. Je visais juste au-dessous et à droite de la tête et pressais sur la détente. Au coup étourdissant qui éclata dans l'air, l'animal prit la fuite dans le bois. Puis nous entendîmes un cri aigu, momentané, suivi d'un claquement de castagnettes. « Il a son compte, » dit Henderson, « je l'attends en cœur. Toutefois, mettez votre fusil en joue. » Jaggers arriva en courant. Nous nous sommes approchés du bois, et la lune nous a révélé un corps étendu entre les arbres, assez espacé à cet endroit. « C'est le cadavre d'un homme nu, » précisa Henderson. Je regardais, je sus, ou plutôt, je devinais de quoi il s'agissait. Je priai les autres de s'éloigner. Je tenais à mener moi seul cette affaire, dont j'avais pris la responsabilité, et je les envoyai chercher Williams à Yavring, ce qu'ils s'empressèrent de faire. Ensuite, j'examinai de plus près la forme entrevue parmi les arbres. Le vent venait de se lever, et la sarabande des feuilles et des ombres me donnait l'illusion que l'homme brun continuait à agiter les membres. Il paraissait s'être échappé de quelque bal masqué, et venu ici pour mourir, s'était dépouillé de son travesti, mais demeurait incapable d'arracher sa tête de tigre, car le corps semblait surmonté d'une énorme tête plate et broussailleuse dont les crocs étincelaient dans la gueule, mais à mesure que j'avançais entre les arbres, la tête changea d'aspect. Peut-être le fait de m'approcher davantage du cadavre dissipa-t-il mon illusion. Peut-être aussi la tête affecta-t-elle une forme différente, les derniers vestiges du tigre se dématérialisant pour céder la place à une forme humaine, mais je ne saurais rien affirmer. Lorsque je fus à proximité de l'homme-tigre, je compris nettement qu'il devait en être ainsi, à moins que je n'eusse été trompé par les ombres, car je vis, allongé devant moi, un homme dont le chef portait un turban couleur fauve. C'était le Raja de Gaul, tué par la balle de mon pistolet. Scotland Yard fit le silence sur l'affaire. Des preuves abondantes et épouvantables accablèrent l'assassin. Mais le côté intéressant de l'histoire réside en ceci. La tête de tigre, que j'avais vue à deux reprises, était-elle une réalité ou une illusion due au turban fauve et à ma propre imagination? Et après tout, qu'importe. À certaines périodes, cet homme empruntait l'âme d'un tigre. Et fût-il pourvu de fourrure et de griffes, la métamorphose n'eût pas été plus horrible ni plus fantastique. Ainsi s'achève le Raja de Gaul par Henry de Verstappen.